Restitution des ateliers de travail.
Création artistique et innovation technologique. Fabienne Trott, Relais Culture Europe, Paris.
Nous sommes partis sur une définition de l'innovation comme l'invention, le renouvellement, l'optimisation d'un produit, d'un bien, d'un service. Puis nous avons ensuite une présentation du contexte général autour de cette thématique de l'innovation, contexte européen tout d'abord, avec l'importance à la fois stratégique et politique donnée depuis les années 2000 à ce terme innovation. Au niveau national, ensuite, avec le développement économique confié aux régions en 2004, puis contexte régional, donc région PACA, avec en 2006 l'élaboration d'un schéma de développement économique qui a été suivi de la mise en place des PRIDES, donc des pôles régionaux d'innovation et de développement économique solidaire. Il y en a actuellement 29, dont des PRIDES culture et notamment sur la question des industries musicales. La première intervention, une intervention d'Iwe, artiste qui habite, vit à Berlin. Ce qu'elle cherchait à montrer, c'était bien quelle utilisation finalement faire des technologies à notre disposition et comment travailler, comment penser ensemble à travers cet usage des technologies disponibles. Nous avons ensuite eu l'intervention d'Étienne Himmer, directeur de Element Music Publishing. Étienne nous a présenté un projet dans lequel il a lui-même été impliqué, qui était une proposition faite en 2004 d'un outil de partage rémunéré et tracé d'une culture numérique, projet qui a été rejeté en 2005. En 2009, on voit une organisation, une réaction des majors et leur proposition de création d'une base de données globale d'informations sur les œuvres musicales et les enregistrements sonores. Alors, face à cette proposition et le risque d'une exploitation pyramidale des répertoires des majors, l'enjeu reste bien la construction de modèles économiques rentables. À partir de là, quid donc d'une licence globale aménagée qui serait négociée par les artistes, les auteurs, les créateurs de contenu, les interprètes associés avec les fournisseurs d'accès. Enfin, troisième intervention, celle de Cécile Le Prado, compositrice. Une première partie présentant l'espace comme révélateur d'écriture. Et là, c'est bien la question du rapport de l'immersion dans la production d'œuvres que Cécile nous posait. Et enfin, la deuxième et dernière partie de son intervention portait plutôt sur l'évolution des scènes interactives et la présentation de l'histoire des jeux vidéo, avec en conclusion une conclusion prospective avec les jeux de demain qui tendraient plutôt vers plus d'imbrication entre monde réel et virtuel et on va dire une transparence des frontières entre objets ludiques et artistiques.
L'artiste et les échanges internationaux équitables. Élodie Lebreu, AMI Marseille.
Jean-Sébastien Steil, qui animait cet atelier, nous a donc proposé une définition de la notion d'équitable, d'échange équitable, considérée comme une antidote aux inégalités. Nous sommes dans un contexte de mondialisation qui a tendance à plutôt creuser les inégalités avec une petite partie qui possède tous les moyens de production, de diffusion, de dissémination. Et puis le reste de la population mondiale qui elle, est de moins en moins armée pour répondre à ce mouvement global. Alors, on est aussi parti de l'idée qu'il pouvait y avoir dans ces inégalités des risques de conflits, en tout cas de chocs de civilisation, d'où l'intérêt de travailler sur des échanges équitables et qui tendent à réduire, évidemment, ces inégalités. Pour traverser cette problématique, nous avons accueilli deux intervenants, enfin trois, en tout cas la présentation de deux projets. Le premier projet est un projet de coopération enfin plutôt on va dire d'échange artistique. Ce projet était représenté par Freddy Mutombo, artiste plasticien congolais originaire de Kinshasa, qui représentait le collectif Esa Possible. Ils sont allés à la rencontre d'un autre collectif, basé cette fois à Strasbourg. Et l'idée était d'expérimenter la rencontre artistique très déterminée et de se décontextualiser d'un côté et de l'autre. Le deuxième projet qui a été présenté par Marion Louis Grand s'appelle Kertiosan. Donc c'est donc une association de droit sénégalais basée à Dakar qui travaille sur le développement de la création numérique. Là, le projet était donc plus d'expérimenter les échanges équitables entre opérateurs. On a finalement ressorti trois types d'échanges équitables. Dans les échanges artistiques, on a donc considéré qu'il était important de garantir l'autonomie des artistes dans leur contexte. Est-ce qu'on doit travailler évidemment avec une langue commune, mais aussi garder ses spécificités ? On a aussi mis en exergue l'importance de la compréhension mutuelle des enjeux locaux, des enjeux des territoires. Donc on est bien dans des échanges de région à région, du local au local, pour développer une pensée plus globale. Ensuite, on a évidemment également envisagé cet échange équitable d'un point de vue plus structurel, de changer un petit peu les polarités et ce rapport d'un nord dominant qui donnerait toutes les instructions et les bonnes marches à suivre. On a également avancé l'idée qu'il fallait établir des projets qui soient en phase avec les réalités des différents marchés. Donc ça revient aussi à la compréhension des enjeux locaux. Et un dernier point qui a été souvent abordé, c'est l'importance d'être équitable vis-à-vis des publics et à vraiment réfléchir sur les méthodologies de la médiation vis-à-vis de ces publics. Les freins, ils sont nombreux. Il y a vraiment la question de la mobilité. Les artistes, les opérateurs n'ont pas les mêmes accès à la mobilité, au visa. La question de la trésorerie a été souvent avancée. Comment on peut avancer des sommes importantes alors que l'économie reste très complexe à pérenniser. Et puis, l'un des derniers freins, c'est que ces projets amènent des résultats souvent à long terme, ou au moins à moyen terme. Et c'est donc difficile de rentrer dans des processus à long terme avec des financements qui sont souvent délimités dans le temps.
Culture, outils de rénovation sociale. Vincent Debloc, AMI Marseille.
À travers l'intervention de Samo Selimovic de Bunker de Ljubljana en Slovénie, on a pu noter à travers la présentation de Bunker que la présence de l'artiste était véritablement considérée comme un moyen de recréer du lien entre les populations par tous les biais, pour tous les âges, pour tous les types d'habitants. J'ai noté aussi dans cette intervention l'importance qui était donnée au fait du faire ensemble qui relevait en fait de cet enjeu de renforcer le sentiment d'appartenance à un quartier. Finalement, on se rend compte que dans cette initiative, l'art et la culture sont considérés comme un moyen de prise de conscience, mais pas forcément, qui ne peut pas forcément tout résoudre. Cela a amené à soulever plusieurs questions. Est-ce que la culture, l'action citoyenne ne doit pas finalement conduire à de l'action politique, à l'implication politique du citoyen? Autre intervention, celle de Renata Fontanillas de l'Institut Oi Futuro à Rio de Janeiro, Brésil. Deux mots pour resituer le contexte culturel au Brésil. La culture y est majoritairement financée non pas par les pouvoirs publics mais par des fonds privés défiscalisés des grandes entreprises qui sont incitées notamment par une loi du gouvernement qui sont incitées à investir dans le secteur culturel. L'Institut Oi Futuro est un institut culturel brésilien qui lui-même est une émanation d'une société de télécommunications qui se préoccupe de formation et d'emploi des jeunes dans le domaine des arts et des nouvelles technologies. Dans ce contexte, on se rend compte qu'Ori Futuro est présenté comme le volet de responsabilité sociale de l'entreprise de télécommunication Oi. Beaucoup de questions soulevées par rapport à cette intervention. Bien sûr, on peut, dans une certaine mesure, se féliciter du fait que, finalement, c'est très bien et c'est tant mieux si des fonds privés peuvent permettre à des jeunes de trouver du travail. Mais si la vocation est qu'ils deviennent quelque part artistes, est-ce que, finalement, ce dispositif pourra faire d'eux, pour autant, des artistes émancipés ou autonomes ? Autre questionnement aussi soulevé à travers cette intervention, on peut aussi s'interroger dans quelle mesure est-il dangereux ou pas de considérer la culture uniquement en termes d'investissement laissé aux seules mains de l'entreprise ou du secteur privé. Autre intervention, celle de Marco Félez, les articulteurs à Redon, en Bretagne. Une forme de cluster culturel, grappe d'acteurs des secteurs économiques, sociaux et culturels qui se situent en pays de Redon et de Vilaine. Beaucoup d'acteurs culturels présents sur ce territoire, mais relativement isolés et pas forcément tous coordonnés. Partant de ce constat, des associations, des artistes, des habitants, finalement des acteurs de la société civile ou de l'insertion économique ou du tourisme rural décident ensemble de bâtir des collaborations, de défendre l'idée que finalement la culture n'est pas uniquement quelque chose qui coûte, mais que ça peut être aussi quelque chose qui rapporte. On se rend compte qu'à travers leur vision, ces acteurs mettent en place ensemble un système de gouvernance partagée. Dans leurs relations avec les élus locaux ou avec les entreprises, ils défendent vraiment une vision du développement du territoire où chaque habitant a véritablement un rôle à jouer en tant que tel. Cela a amené plusieurs remarques, notamment le fait qu'il fallait savoir de quoi on parlait lorsqu'on parlait de cluster. Il faut vraiment cerner quelle est la logique d'acteurs qui se tissent derrière. Dans le cas des articulteurs, ce qui est beaucoup mis en avant, c'est cette logique du bien vivre ensemble, qui n'est pas forcément la même qu'une simple logique de regroupement d'entreprises dans un pôle de compétitivité, par exemple.
L'artiste et le patrimoine vivant. André Akoutsa, AMI, Marseille.
Donc autour de la table, il y avait Philippe Théier, qui est maître de conférence en sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Grenoble, qui était le modérateur. Philippe Théier s'est transformé très vite en psychanalyste sauvage, on va dire, des circonstances. Et à travers le test d'introduction, il s'est un peu penché sur l'âme du secteur culturel. Et il a trouvé qu'à travers ce test trahissait trois familles de conflits, on va dire, dans l'âme du secteur culturel vis-à-vis notamment de l'industrie touristique. Et la première famille de conflits serait une opposition entre le tourisme culturel et la création, une contradiction entre une idée de domination d'un certain tourisme culturel ou d'une certaine manière de valoriser le patrimoine et l'idée de l'innovation, de la créativité, etc., qui serait portée par les artistes, ou la contradiction entre l'idée de l'événementiel, l'idée du ponctuel, qui est toujours liée au tourisme de masse, on va dire, tourisme culturel, et l'idée de la durabilité, du permanent que porteraient les créatifs, on va dire. La deuxième famille de conflits intrapsychiques, on va dire, que le docteur Théier a trouvé, serait une espèce de déficit d'endroit d'écoute, d'endroit de débat, en tous les cas, que ressentiraient les acteurs du secteur culturel et que trahirait le test introductif de cet atelier. Et la troisième famille serait de l'ordre de la quête permanente du côté des acteurs culturels, d'une politique culturelle non conflictuelle, une politique coopérative, une politique culturelle consensuelle, une quête à laquelle ils n'arrivent pas pour l'instant et qui créerait une espèce de frustration dans l'âme profonde du secteur culturel. Et un bon psychanalyste sauvage, il va demander à chacun de ses patients, donc les quatre intervenants, d'avouer qu'il détestait l'industrie du tourisme culturel. Et évidemment, il fallait un drame. Donc les quatre intervenants ont refusé d'avouer de ce diagnostic. Et ils vont faire la démonstration à travers leurs actions, chacun sur son territoire, de ce qu'ils n'étaient pas contre l'idée de l'économie touristique, parce qu'il faut bien que les habitants de leur territoire mangent, il fallait bien que les artisans et les artistes de leur territoire mangent, mais que ce qu'ils essayaient de faire, c'était de proposer de nouvelles manières de valoriser leur territoire, de nouvelles manières de valoriser les patrimoines vivants, mais aussi non vivants de leur territoire, et que là se trouvait le conflit, mais le conflit viendrait de l'endroit où commence le dialogue entre la création, l'artiste, ceux qui l'accompagnent, et la mise en tourisme, on va dire. Comment on passe de la création à la démultiplication. La réponse à cette contradiction permanente, qui est pas destructrice, mais heureuse, justement, parce que ça permet de mettre de la dynamique sur les territoires, la réponse résidait dans ce que Donato Giuliani disait en début des rencontres, cette notion de la masse critique. C'est-à-dire que chacun des acteurs autour de la table cherchait sur son territoire la bonne échelle pour mettre de la dynamique sur son territoire à partir de la créativité ou de la création.